m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, avec courtoisie.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour, chers auditeurs. Heureux de vous retrouver en compagnie de toute l'équipe de Restons Courtois du vendredi soir, 17h30, 19h30. Émission réalisée en partenariat avec Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. Mais ça, vous le savez, c'est parti pour 2 heures avec ce soir trois voix subtiles et à droite pour observer l'envers de l'actualité de notre cher et vieux pays. Damien Chalamel, avocat spécialiste de la propriété intellectuelle, il est là, vous le connaissez. Bonsoir Damien.
Bonsoir cher Marc, chers auditeurs.
Franck Herriot, journaliste et écrivain, spécialiste de la police et de la justice, et ça tombe pas mal. Bonsoir Franck.
Bonsoir tout le monde.
Gérard Gachet, ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, ancien porte-parole du ministère de l'Intérieur, adjoint au maire du 16e arrondissement de Paris, j'en oublie, non, Gérard Gachet?
Oui, ce serait trop long.
Vous pouvez, bonsoir, chers auditeurs, nous appeler au 01 46 51 00 85 ou nous envoyer vos courriels à courtoisie@rc.fr. Les valeureux bénévoles de Radio Courtoisie attendent vos messages. On essaiera de les lire tous à l'antenne dans la mesure du possible. Vous êtes tous les bienvenus au programme. Aujourd'hui, une émission spéciale, une émission après ce drame. Nous allons parler durant presque toute l'émission de l'ultra-gauche qui a aujourd'hui un mort sur la conscience, si tant est qu'ils en aient une. Donc, le programme du jour, quand Raphaël Arnaud évoquait à l'Assemblée les violences de l'extrême droite. Raphaël Arnaud.
Restons courtois, Marc Baudrier.
Et nous sommes toujours avec Damien Chalamel, Gérard Gachet et Franck Herriot en compagnie de Olivier Vial, directeur du Centre d'études et de recherche universitaire. Il est le responsable du programme sur les nouvelles radicalités. Nous parlons évidemment du drame de Quentin. Et je voulais qu'on parle un peu médias. Je voudrais vous soumettre quelques titres d'un vieux journal bien connu de vous tous qui s'appelle L'Humanité. La mort de Quentin, une tragédie honteusement récupérée par la galaxie réactionnaire. Grièvement blessé jeudi en marge d'une action du groupe FEMO nationaliste Némésis contre la tenue d'une conférence de l'eurodéputé LFI Rima Hassan, etc., etc. L'Humanité toujours, Action française, Némésis, défilé néo-nazi, Quentin de Ranque au carrefour des extrêmes droites. Voilà, L'Humanité encore. Après la mort de Quentin, le risque de représailles brunes contre LFI et les antifascistes. Alors, vous me direz, oui, c'est L'Humanité, on les connaît, ils pèsent rien, etc. Sauf que ça correspond exactement au discours de LFI et de toute la gauche et de ce discours qu'on entend de plus en plus fort au fur et à mesure, notamment en s'appuyant sur la manifestation de samedi, on en parlait. Est-ce que là, il n'y a pas finalement un retour en force extrêmement dangereux de l'ultra-gauche qui toute honte bue, se dédouane de cette mort tragique pour lutter contre l'extrême droite.
Bien sûr, mais effectivement, ces médias-là, finalement, c'est assez attendu. Ça a été beaucoup plus large que ça, en fait. Hein. Cette offensive, c'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la stratégie de Mélenchon, elle est finalement beaucoup plus habile qu'on peut le penser. C'est une stratégie d'imposer son narratif et donc de ne pas du tout faire amende honorable, de ne pas lâcher la jeune garde, mais d'imposer le fait que c'était un drame, mais ce drame-là est rendu possible parce que il y avait une menace d'extrême droite et donc il fallait qu'il y ait la jeune garde qui soit présente et qu'elle a toujours cette mission-là et que la menace, la vraie menace, c'est l'ultra-droite. Et ce discours-là, on le retrouve partout. Et vous avez aujourd'hui ces médias-là, mais il faut pas sous-estimer que le poids de L'Humanité est assez faible. Mais par contre, il y a sur les réseaux sociaux, il faut voir ce ce que sont tous les webzines. Je pense à Bon Pote, qui est normalement, qui est aujourd'hui un des médias les plus regardés par les jeunes, qui fait des vidéos à plus de millions, qui dépasse le million de vues, donc beaucoup plus que l'humanité, et qui là, lui, parle de manifs néo-nazis, et qui attaque tous ceux qui ne sont pas dans la ligne. Par exemple, Hugo Clément, qui est cet influenceur écologiste qui a été un compagnon de route de tous les mouvements écolos, il a eu le malheur de dire et de s'en prendre à Raphaël Arnaud en disant que voilà où mène la violence et que il avait toujours combattu cette forme de violence. Juste parce qu'il a dit ça.
Oui, dans un tweet.
Aujourd'hui, il est classé à l'extrême droite par tous ces mouvements-là. Tous ces réseaux-là sont en train de le nazifier lui aussi. En fait, simplement d'être en capacité d'avoir de la compassion pour Quentin, c'est déjà une preuve de faiblesse pour ces gens-là qui, aujourd'hui, sont dans cette volonté d'imposer le narratif où il n'y a qu'un seul ennemi, toujours un seul ennemi, toujours le même, c'est la menace de l'extrême droite.
Et alors, dans ce jeu-là, on voit bien, il y a toute une galaxie de titres, notamment l'audiovisuel public. Damien Chalamel.
Oui, j'ai écouté l'autre jour un de vos confrères, Jean-Yves Camus, qui évoquait ce discours de l'envahissement du fascisme, où tout est fascisme. Tout ce qui est à droite de l'extrême gauche est fascisme. Et ajoutait-il, et s'il n'est pas fasciste, il est complice du fascisme. Et s'il n'est pas complice du fascisme, il concourt objectivement à l'avènement du fascisme. Et bien évidemment, on nazifie tout et on est dans le camp du bien.
Et lui, typiquement, qui est l'un des chercheurs de la Fondation Jean Jaurès, donc qu'on ne peut pas qualifier d'extrême droite, depuis qu'il a dit ça, il est attaqué sur tous les réseaux sociaux comme étant lui-même complice de cette extrême droite-là. C'est la preuve par l'exemple. Et ce que dit très bien Jean-Yves Camus, c'est théorisé. Puisque Marc Bray, dans son livre de 2018, explique qu'il faut renouveler l'antifascisme et que si l'antifascisme, c'est simplement de lutter contre les adorateurs de Pétain, il va vite manquer de clients. Et donc, il faut s'ouvrir à d'autres formes, et donc ils vont, et c'est aussi vrai d'autres mouvements, ils vont élargir et notamment s'appuyer sur les combats intersectionnels pour élargir ce qui est fasciste. Et aujourd'hui, tout peut devenir fasciste, et notamment un autre mouvement antifa parisien explique que la première menace fasciste, c'est pas les militants néo-nazis, c'est la police. Et donc, ils vont classer la police comme fasciste. Et le concept d'autodéfense, par exemple, c'est très important de bien comprendre ce que ça veut dire, parce que beaucoup de personnes, y compris dans les médias, et je pense que certaines fois, avec une forme de naïveté, pensent que autodéfense, ça veut dire légitime défense. Ce n'est pas du tout le cas. L'autodéfense, c'est se mettre en situation de pouvoir suppléer à l'ordre fasciste. Et donc, l'ordre fasciste, pour eux, il est représenté à la fois par les institutions, il est représenté par, soi-disant, les hordes fascistes, mais aussi par la police, etc. Et donc, l'idée, c'est d'avoir s'organiser pour avoir des gens qui sont en capacité de faire régner leur ordre, leur système, et de se défendre contre les forces fascistes, y compris la police. Et ça a été totalement... Il y a eu un terrain d'expérimentation qui a été très précis. Ça a été Seattle pendant le mouvement de Black Lives Matter, où pendant plusieurs semaines, des quartiers entiers étaient interdits à la police, et c'était les antifas qui faisaient la police et qui imposaient leur ordre. Et c'est exactement ce que veulent faire, notamment à Lyon, les antifas dans certaines rues et dans certains quartiers. Et les habitants en témoignent, en gros, du fait qu'aujourd'hui, ils font régner leur ordre, ils empêchent la police de passer, ils protègent même certains dealers, etc. Donc on est dans un autre ordre.
Ironiquement, ce fameux Marc Bray, qui est un Américain, un universitaire américain, il est réfugié en Espagne parce qu'il a fui l'Amérique fasciste. Pour vous donner une idée de la clairvoyance, la pertinence de son propos.
Et il a été accompagné par toute une flopée d'articles qui ont dit, regardez, c'est une dictature tellement sanguinaire qu'il était devenu une star
à cause de ça, effectivement.
Il était obligé de fuir. Voilà.
En fait, il a quitté effectivement les États-Unis le jour où Donald Trump a classé les antifas comme mouvement terroriste, puisque là, pour le coup, si on cherche un inspirateur, il est l'inspirateur. C'est l'équivalent d'Abou al-Souri pour les djihadistes. Marc Bray est leur équivalent chez les antifas.
Et alors, ce qui est extraordinaire quand même, si on revient un tout petit peu sur les médias, c'est le traitement par les médias publics, par le service public. Donc France Info TV, les Dépêches, etc. Il y a une volonté vraiment manifeste qui se voit comme le nez au milieu de la figure, de nazifier le personnage, voilà, d'en faire un extrémiste. Il est qualifié de tous les noms épouvantables, alors que ce garçon était absolument pas dans des...
tout cas, ce garçon, il y a des choses très factuelles. Il n'a jamais été inquiété pour aucune violence. Son casier judiciaire est vierge, ce qui n'est le cas ni de Raphaël Arnaud, ni de son attaché parlementaire, qui est aujourd'hui mis en examen, mais qui et qui même qui dort en ce moment en prison, mais qui avait déjà eu des condamnations.
Voilà. Alors j'aurais bien aimé aborder le comment dire la position de notre ami Emmanuel Macron sur cette affaire qui mérite quelques commentaires. Mais d'abord, on a beaucoup de messages d'auditeurs et notamment de ce message d'une auditrice qui nous dit depuis 1970 la création du mouvement Occident par Alain Robert, devenu Ordre Nouveau après la dissolution d'Occident, les gauchistes de Cohn-Bendit n'ont jamais cessé leur combat contre notre France et notre Europe, dit-elle. Et le pauvre Quentin est un martyr de la cause nationale qui finira par l'emporter contre les forces du diable. Voilà ce que nous dit notre auditrice, et j'espère qu'elle a raison. Voilà, un autre auditeur nous dit, pour avoir croisé les racailles trotskistes à la fac alors qu'ils prenaient le prétexte de l'intervention soviétique en Afghanistan contre la résurgence de l'islamisme radical pour quitter l'UNEF et fonder l'UNEFID, avec déjà un discours wokiste et victimaire, aucune hypocrisie ne peut m'étonner de leur part, ni faire oublier qu'ils véhiculent la violence comme leur nature profonde.
Juste un message pour
Olivier Vial.
Évidemment, pour aller dans le sens, l'un des fondateurs de la Jeune Garde a été mis en cause pour violence dès 2020, mais il a été aussi mis en cause pour apologie du terrorisme, puisqu'il soutenait Boko Haram.
Très intéressant, merci, nous dit cet auditeur. Merci à vous. Je crois qu'il faut arrêter d'appeler ces milices Antifa, c'est leur faire de la publicité. Je préférerais les qualifier de milices ultra-violentes de gauche, ce qui serait beaucoup plus réaliste et stigmatisant. De plus, tous ces nervis sont des couards et des pleutres. Ils sont toujours en groupe. Ça, vous pouvez le confirmer, Olivier.
Oui, aujourd'hui, en fait, la stratégie, c'est effectivement d'attaquer en surnombre et de façon armée, justement, et par surprise, ce qui est effectivement assez différent de ce qui se faisait avant, où il y avait quand même la violence qui était aussi condamnable, mais qui était quand même dans des règles beaucoup plus gentleman.
Ouais, et surtout, ils essayent d'isoler, hein, on le voit sur les images, ils essayent d'isoler quelques militants, ils empêchent les autres d'approcher, et là, ils les tabassent à 3, 4, 5, 6, c'est effrayant.
Oui, justement, tout à l'heure, Gérard évoquait tout à l'heure les années 70, où on a connu ce genre d'affrontement affrontement violent entre, par exemple, les Mao, les Trotskistes et des groupes d'extrême droite. Il existait aussi, à cette époque-là, des camps d'entraînement. Oui. Pas quelque chose de tout à fait loin. Alors qu'est-ce qui fait la différence dans le traitement ou dans la perception qu'on en a aujourd'hui? Ce sont les réseaux sociaux, c'est les médias.
Il y a plusieurs choses. Un, pour être très transparent quand même, on n'est pas arrivé au niveau de violence des années 70-80.
D'accord.
Le niveau des violences des années 70-80, on en prend le chemin, mais on n'est pas arrivé à ce niveau de violence, puisqu'à l'époque, il y a eu des assassinats ciblés, il y a eu du vrai terrorisme d'ultra-gauche. L'action directe, par exemple, c'est 12 morts. Hein, donc, c'est quand même des choses beaucoup plus importantes. Par contre, on retrouve certaines montées, effectivement, certaines stratégies qui ont été mises en place. On retrouve notamment un acteur qui, moi, effectivement, m'inquiète depuis quelques mois. Je l'ai beaucoup alerté. Dans les années 70, l'acteur qui va aider tous les mouvements d'extrême gauche à se constituer, à s'armer, à avoir des explosifs et à s'entraîner, c'est le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, qui va être Action Directe, se constitue avec son soutien. Tous les mouvements de les indépendantistes corses, l'IRA, tout ça se retrouve dans des camps d'entraînement du FPLP. Et bien aujourd'hui, le FPLP est en train de revenir sur les campus, et notamment, vous parliez de l'Université de Lyon 2, à l'Université de Lyon 2, il y a eu une conférence avec la représentante du FPLP il y a quelques années, et la présidente de l'université a simplement interdit à ce qu'elle soit à la tribune, mais elle a pu intervenir depuis la salle. Donc on est dans quelque chose de totalement surréaliste, et le FPLP, de plus en plus, on le retrouve dans des manifestations à Toulouse, et il est de plus en plus important. Et ça peut aller jusqu'à des ingérences étrangères maintenant, puisque on a le cas très documenté à Dijon, campus de Dijon. Là, cette fois-ci, c'est un agent des forces Al-Qos, donc des services secrets iraniens, Bachir Biazar, qui a été arrêté et expulsé alors qu'il avait pour mission justement d'instrumentaliser les oppositions dans les universités pour monter le niveau de violence.
Tout se tient, pardon, parce que on disait tout à l'heure que Mélenchon imposait son narratif et intimidait le reste de la gauche. Pourquoi est-ce qu'il a pris cette importance et cette puissance? C'est parce que, depuis quelques années, il applique aussi une stratégie qu'on a appelée l'islamo-gauchisme et de captation de l'électorat d'origine maghrébine ou immigrée en France. Et c'est ça qui lui donne aujourd'hui un poids spécifique et qui le met en très bonne relation, justement, pour avoir des liens directs avec les mouvances que l'on vient de décrire.
Absolument. Non, mais on voit, vous avez très bien montré, c'est pas absolument passionnant, à quel point il s'appuie sur des mouvements marginaux, mais très violents, de manière tout à fait assumée, quoi,
Et organisée. Ça a été totalement théorisé et la stratégie est appliquée avec efficacité.
Allez, avant de vous lâcher et de vous libérer, Olivier Vial, encore deux questions d'auditeurs. Peut-on imaginer que le rassemblement de demain n'a été autorisé que pour l'organisation d'un incident après la fin de la marche? La question me paraît...
Non, je pense que là, pour le coup, vraiment, les infos qu'on a, c'est que, en tout cas, du côté du service de l'État, ils font tout pour que ça se passe très bien. Maintenant, il faut quand même avoir conscience que ceux qui vont être là pour filmer, pour chercher le petit truc pour monter en épingle, ça sera effectivement tous les médias de l'ultra-gauche qui seront tous présents. Les Antifa appellent aussi à des mobilisations. Donc il y a des risques effectivement qui existent, mais en tout cas l'État a mis les moyens et il y aura beaucoup de forces de l'ordre pour éviter que ça se passe mal.
Olivier Vial, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes le directeur du CERU, le Centre de Recherche Universitaire, et que vous êtes responsable du programme sur les nouvelles radicalités. Merci infiniment. Oui, et juste, c'était absolument
juste si vos auditeurs veulent en savoir un peu plus sur la Jeune Garde, j'ai dit toutes les semaines une newsletter, et cette semaine c'était sur la Jeune Garde, donc il suffit de taper sur internet Substack, parce que c'est la plateforme qui édite ma newsletter, Observatoire des Radicalités ou Olivier Vial Substack, et vous trouverez tout un article qui est assez long sur la Jeune Garde.
Voilà, la consigne est passée. Merci Olivier Vial et merci d'être venu parmi nous. Merci pour toutes ces informations. On comprend beaucoup mieux l'origine et la dangerosité d'ailleurs, surtout, de ce mouvement.
Merci.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
La police a mis des moyens très importants pour retrouver le ou les meurtriers et leurs complices. Ira-t-elle jusqu'au bout? Nous sommes avec vous, Christian Flèche. Bonjour.
Bonjour.
Et nous parlons évidemment du drame terrible qui a entraîné la mort du jeune Quentin à Lyon, dans les alentours de Sciences Po Lyon. Vous avez été le responsable de la protection des hautes personnalités. Vous avez été le chef de la police judiciaire de Bobigny. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Vous avez été le patron, pour l'instant, ça va, le patron de la BRI. Et vous êtes devenu en 2007 le patron du 36 Quai des Orfèvres, tout simplement, vous l'avez été jusqu'en 2013, donc 6 ans. Bienvenue avec nous, on est très honorés de vous avoir parmi nous. Je remercie Franck Herriot qui vous a contacté. Question, deux personnes qui sont suspectées d'être impliquées dans la mort de Quentin Derenck à Lyon ont été interpellées et placé en garde à vue mercredi 18 février dans la matinée. La veille au soir, 9 autres personnes avaient été déjà placées en garde à vue. Est-ce qu'on a mis beaucoup de temps à arriver à ces gardes à vue? Est-ce que ça vous a surpris? Et est-ce qu'il n'y avait pas un risque, on en a parlé, de dissimulation de preuves?
Oui, alors bien sûr, il y a toujours ce risque-là, mais je pense que le procureur de la République, il a bien expliqué un peu les choses lorsqu'il a fait une conférence de presse. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont désignés par la vindicte populaire, il y a la rumeur, et puis il y a la réalité juridique. Et donc, pour faire une procédure, pour arriver aux mises en examen qui ont eu lieu hier soir, il faut avoir des éléments tangibles dans une procédure. Et c'est ce qui a pris du temps, le temps d'avoir des témoignages, le temps aussi, parce que entre les premiers éléments qu'on avait, et puis quelques jours plus tard avec d'autres vidéos, on a bien vu que la procédure s'est montée avec des éléments qui étaient beaucoup plus tangibles et qui permettaient de mettre en cause plus de personnes et aboutir à ce qui est quand même 7 personnes de mise en examen hier soir.
Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'éléments aujourd'hui ou, parce que c'est difficile, on sait que ce sont des militants qui sont très difficiles à saisir, ils agissent avec des masques toujours. Ils ont l'habitude des caméras. Lors de leurs agressions, ces antifas, très souvent, on les voit sous des parapluies. Ils agissent sous des parapluies pour éviter que les caméras de vidéo de surveillance ne les identifient, ne permettent de les identifier.
Alors, la police judiciaire sait s'adapter aussi à ça. Ouais. Bien sûr qu'on a... c'est une façon aussi de travailler, je dirais, entre guillemets, que les gens dans les banlieues peuvent avoir. Donc... on sait faire face à ce genre de choses et il faut avoir un peu de temps, mettre beaucoup de moyens, ça a été le cas, pour arriver à ce que des procédures tiennent la route, comme on dit, et aboutissent à ce que des gens puissent être condamnés.
Franck, dernière question, et je vous donne la parole. Quelles infos restent à trouver aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va chercher à obtenir? Quel est le travail qui reste à faire par la police judiciaire à ce stade de l'enquête?
Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail parce qu'il y a 3 juges d'instruction qui ont été désignés, il y a 7 personnes de mise en examen, il y a sans doute beaucoup plus de personnes qui ont participé à ces faits. Il faut à la fois identifier toutes ces personnes et savoir qui a fait quoi. Vous avez bien vu qu'on peut faire 3 gros groupes concentriques, 3 cercles concentriques. Il y a l'association de malfaiteurs, ceux qui ont participé en connaissance de cause à cette action-là. Ensuite, il y a ceux qui ont porté des coups, et il y a ceux qui précisément ont porté des coups mortels. Donc il y a association de malfaiteurs, violence aggravée et homicide volontaire. Donc ça veut dire qu'il y a du monde d'abord à chercher, à identifier, rechercher, interpeller, et ensuite il y a déterminer qui a fait quoi.
Justement, parce que la plupart des gens imaginent mal les moyens que ça représente pour arriver à identifier tous ces gens-là. Les moyens, les heures à passer à enquêter, est-ce qu'on peut avoir une idée précise de tout ce qu'il faut faire pour arriver à identifier
Alors, en nombre, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, bien sûr, il y a une pression médiatique. Il y a tous les gens qui sont convaincus d'avoir déjà la solution une heure après. Donc, c'est un peu plus long. Donc, il y a les témoignages qu'il faut recueillir. Il y a les victimes. Il y a quand même quelques victimes qui ont été tapées, mais qui, heureusement, sont encore en vie. Et puis aussi, il y a l'enquête de voisinage. C'est sans doute l'enquête de voisinage qui a permis d'avoir des vidéos qui n'étaient pas la vidéo initiale. On a vu qu'on a un certain nombre de vidéos, des faits précisément, mais aussi des faits avant et après. Et tout ça est intéressant pour essayer de comprendre le déroulé des faits.
Est-ce que votre enquête va porter aussi sur la question de savoir ce que faisaient des collaborateurs d'un parlementaire, d'un député avignonnais à Lyon?
Alors, ce n'est pas mon enquête.
C'est pas votre enquête, pardon. L'enquête de la police judiciaire.
Ces collaborateurs
que vous avez dirigés.
J'étais pas à Lyon, j'étais à Paris, mais je vois à peu près comment ça peut se faire. Les gens qui sont mis en examen, bien sûr, on leur posera la question de savoir comment ils arrivent là. Bien sûr. Donc, il y a un sujet, il y a 3 juges qui sont là. Il y a, à mon avis, une enquête qui va durer quelques mois avant d'aboutir à des jugements. Donc, il y aura... Parce que c'est aussi...
Parce que 3 juges, c'est important, 3 juges. C'est assez rare, non?
Alors, c'est rare, mais en même temps, c'est nécessaire. Parce qu'il y a d'abord, il y a du travail. Et ensuite, il y a une telle pression qu'il faut éviter qu'il y ait une cible médiatique sur tel ou tel. Là, il y a 3 personnes, donc ça évite de cibler une personne en particulier. Je pense que quand on est sur une complicité par instigation, ce qui est le cas manifestement du collaborateur parlementaire, ça veut donc dire qu'il faut déterminer si, en connaissance de cause, il a pu donner des instructions pour aboutir au résultat qu'on connaît.
J'espère qu'on se posera la question aussi pour le député, puisque c'était son collaborateur direct.
Après, ça devient une... un peu plus indirect. Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, avant que je n'arrive. Oui. Vous avez parlé d'autorisation. La manifestation n'a pas à être autorisée. La manifestation, elle est déclarée. Il y a une déclaration qui est faite en préfecture. Cette déclaration fait l'objet éventuellement d'une discussion avec les services préfectoraux pour déterminer l'itinéraire, par exemple, les mots d'ordre, tout un tas de choses. Et ensuite, la préfecture a 2 solutions. Soit laisser faire ce qui s'est passé là et mettre en place les moyens ce qu'ils sont en train de faire pour assurer la sécurité de cette démonstration, ou alors interdire. Et si elle interdit la manifestation, il y a une jurisprudence administrative qui est assez simple, c'est qu'il faut déterminer qu'il y a un risque à l'ordre public et que l'État n'a pas les moyens de faire face à ce risque à l'ordre public.
Voilà. Oui, je comprends. Du coup, évidemment...
Donc la manifestation n'est pas autorisée, elle est elle n'est pas interdite.
Ouais. C'est un droit. Attends. C'est voilà, non mais c'est non mais c'est important. Ce que
c'est,
vous...
c'est une liberté fondamentale.
Les auditeurs, hein, c'est c'est un corollaire de la liberté d'expression. Mmh. C'est la liberté de,
le droit de
manifester
manifestation.
Publiquement. Voilà. Alors maintenant, c'était l'arrêt Benjamin auquel vous faisiez référence. Malheureusement, la jurisprudence administrative est quand même, je pense, de plus en plus défavorable à la mise en œuvre pratique de ce de cette liberté de manifester. Mais bon.
Oui, Christian Flèche, il se dit beaucoup actuellement que au sein de la police nationale, il y a un secteur qui souffre et qui est un peu en crise. C'est le secteur de justement de l'investigation et du renseignement que vous connaissez bien, que vous avez dirigé à travers notamment la police judiciaire. Est-ce que cette crise, si elle est réelle dans le secteur de l'investigation et du renseignement, peut avoir des conséquences sur la tenue de l'enquête concernant l'ultra-gauche violente à laquelle on est confronté?
Alors sûrement pas sur ce plan-là précisément, puisque je suis convaincu qu'il y aura tous les moyens qui seront mis. Il y a deux points, investigation, renseignement. Sur le renseignement, je pense que c'est maintenant, il y a une réforme qui a été faite, la création d'une direction générale de la sécurité intérieure qui fait du très bon travail. Et je pense que aussi elle le démontre, parce que quelque part, pour faire une investigation judiciaire dans ce domaine-là, il faut avoir des services de renseignement qui sont à la hauteur. Et manifestement, ils le sont, puisque même si on peut trouver que ça n'a pas été assez vite, on a quand même des gens qui sont interpellés et qui sont mis en examen, ce qui est le signe que les éléments sont palpables. Sur l'investigation, c'est un deuxième sujet, c'est une réforme qui est compliquée, que j'ai du mal à comprendre, et qui fait... Ce que je peux reprocher, c'est qu'elle ne fait pas... Elle ne prend pas en compte la délinquance. Voilà. Il y a une réforme qui est plutôt administrative et qui devrait plutôt s'appuyer sur le sujet de la délinquance.
Ce dont se plaignent souvent les enquêteurs, c'est l'accumulation de la paperasse, c'est de passer plus de temps devant un ordinateur que dans la rue. Ou à...
Ça, c'est un deuxième point qui n'est pas la réforme, mais qui est toutes les volontés depuis 20 ans de simplifier la procédure. Et toutes les réformes qui ont été faites, mais depuis 20 ans, au gouvernement de droite et de gauche, n'ont fait que complexifier la procédure. Et donc, à chaque fois, on arrive avec des situations où il faut... si vous voulez, quand on prend un peu... ça a déjà été fait. Quand on prend le code pénal il y a 20 ans, quand on prend le code pénal maintenant, il a augmenté, on a des textes qui sont faits. On fonctionne en France sur un système de faits divers. Donc, il y a un fait divers, on fait une loi. Donc, on fait une loi qui complexifie un peu, qui crée des délits particuliers... Et on essaye de trouver un esprit, mais il n'y a plus d'esprit. Il n'y a plus de philosophie du droit. Il y a juste une accumulation de textes. Voilà, et il faut... C'est vraiment très compliqué pour arriver à s'y retrouver dans les textes. Et le policier, il est là avec ses logiciels qui ne sont pas toujours très efficaces, et puis une procédure qui est compliquée. Donc il y a parfois un désintérêt, un désamour pour l'investigation qui peut poser problème, pas dans cette affaire-là, mais de façon globale, dont on verra peut-être les conséquences plus tard.
C'est le reproche qu'on peut faire aux policiers sur le temps qu'ils mettent à identifier des suspects. Faut tout de même savoir qu'un dossier qui va être présenté à la justice doit être plein, rempli,
ficelé.
Avec des preuves ficelées. Sans cela, la justice ne peut pas travailler. Et on reprochera, si ce n'est pas le cas, on reprochera à la justice de ne pas faire son boulot. On sera obligé de relâcher des gens contre lesquels il n'y a pas assez d'éléments. L'enquêteur, il est tenu à donner tout ce qu'il faut à la justice pour pouvoir prendre une décision. Et après, ils travailleront sous l'instigation du juge, mais avant...
La police, elle a l'habitude d'avoir les reproches. C'est-à-dire que soit on ne va pas assez vite parce qu'on est mauvais, soit si on les trouve trop vite, c'était trop simple. C'est-à-dire que si on les trouve trop vite, c'est parce que les autres étaient des imbéciles, et que c'était facile de les trouver. On a l'habitude de ce genre de reproches.
Ouais. Alors justement, est-ce que là, ce sont des imbéciles? Quelles sont les caractéristiques quand on enquête et quand on essaie de pincer ce type de groupe? Est-ce qu'ils sont plus difficiles à cerner? Est-ce que c'est difficile d'enquêter sur eux ou pas tellement? Est-ce qu'on peut comparer l'extrême droite à l'extrême gauche, par exemple, puisqu'on nous parle beaucoup de l'ultra-droite, surtout à gauche d'ailleurs, qui nous dépeint des trucs très dangereux. Mais enfin, bon.
Non, mais on a la chance.
Est-ce que c'est difficile de cerner l'ultra-gauche, de rentrer, de les infiltrer, de savoir ce qu'ils préparent? Les gens ont quand même un sentiment d'impunité de cette ultra-gauche.
On a, heureusement, je vous l'ai dit, la chance d'avoir des services de renseignement qui sont à la hauteur. Donc c'est le travail d'infiltrer par différentes méthodes de renseignement que qui ne sont pas utiles de dévoiler ici, mais qui permettent d'avoir, et à l'ultra-droite et à l'ultra-gauche, des organigrammes, des responsables. Ça veut dire, quand vous avez des responsables, vous avez des noms, vous avez des adresses, vous avez des photos. Et tout ça est utile maintenant. Quand vous avez des faits particuliers, vous pouvez présenter des photos parce que vous les connaissez déjà. Donc, ça accélère un peu les choses. Ensuite, pour répondre à, aussi et pour abonder sur ce que disait Franck Herriot, on aurait pu peut-être sans doute, dès la première personne identifiée, aller la chercher, comme on dit, l'interpeller. Il faut avoir une vision un peu plus globale. Et puis, c'est la décision qui doit être prise, dans l'occurrence, là, c'était le procureur sans doute qui l'a prise, entre la nécessité d'interpeller le plus vite possible pour éviter le risque de fuite ou pour éviter le risque de déperdition des preuves, et en même temps la nécessité d'accumuler des éléments. Voilà, à un moment donné, il faut choisir, avec derrière tout ça, un risque aussi qu'il ne faut pas négliger, le risque d'opération retour, c'est-à-dire que si on met trop longtemps à aller chercher des gens qui sont désignés par la rumeur populaire, des gens viennent le faire à la place de la police.
C'est ça, ils se font justice eux-mêmes.
Voilà.
Alors, il y a un autre point que j'aurais bien aimé éclaircir avec vous, c'est la fuite. On a vu qu'on avait arrêté dans la région lyonnaise, mais aussi en Haute-Loire, en Isère, dans la Drôme et dans l'Aisne, tous ces antifas. C'est ce qu'a précisé en tout cas le parquet de Lyon. Il y en a deux autres qui ont été attrapés à Saint-Priest, dans le Rhône, semble-t-il. Apparemment, ils se sont donc enfuis, cachés. Comment donc est-ce qu'ils ont été suivis? Comment est-ce qu'on fait pour repérer des militants comme ça qui savent qu'ils vont être impliqués et qui s'échappent?
Comme on fait avec tous les voyous, c'est-à-dire qu'on a l'habitude aussi, quand on va chercher des gens, ils n'attendent pas forcément les policiers chez eux, donc il y a des moyens de les tracer, il y a des moyens de savoir où ils peuvent être, et puis à un moment donné, on lance les filets, et puis parfois ça n'aboutit pas, on cherche ailleurs.
Mais comme précisait tout à l'heure Christian Flech, le renseignement aussi joue une part importante, puisqu'on sait où ils vivent, où on connaît les gens, leurs proches, on connaît leurs amis, donc ils sont systématiquement, tous les lieux qui sont connus sont systématiquement visités, et puis de fil en aiguille, on arrive à les repérer.
Et puis il y a ceux qui savent qu'ils vont être arrêtés, donc qui n'ont pas intérêt non plus à partir trop loin, parce qu'après, la vie de fugitif, c'est une autre vie.
Une vie compliquée, il faut beaucoup de moyens.
Enfin, ils sont tous partis, en tout cas. Enfin, tous, pas tous, mais il y en a un certain nombre qui sont...
Saint-Priest, c'est pas très loin de Lyon.
Oui, certes, mais la Drôme, l'Aisne, c'est loin de Lyon.
La Drôme, pas trop, l'Aisne un peu plus.
Alors, comment est-ce que, finalement, on a le sentiment, quand même, avec ces militants d'ultra-gauche, qui ne sont pas à leur premier coup de main. Hein. Ils les filment, on en parlait tout à l'heure, ils les mettent en avant. On a le sentiment qu'ils traversent une impunité totale. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils peuvent être plus ou moins mis à l'abri? On se demande pourquoi, mais en tout cas, quand il y a des militants de droite qui vont à... Dans la Drôme, après l'affaire de Crépol, faire une expédition punitive qui tourne au désastre, vous vous souvenez de cette opération, ils sont tous attrapés immédiatement, etc., et condamnés très lourdement. Là, les militants d'ultra-gauche courent, tabassent, on a le sentiment, en tout cas de l'extérieur, qu'ils ne risquent pas grand-chose.
Mais vous avez répondu, c'est-à-dire que les militants d'ultra-droite ont été arrêtés, les militants d'ultra-gauche ont été arrêtés aussi. Le boulot de la police, c'est de les arrêter sur la base des éléments qui ont été faits. Alors, il y a parfois la nécessité de les arrêter quand on a des éléments sur des actions, soit des actions qu'on prépare, soit des textes ou des propos qui sont sous le coup de la loi, quand il y a malheureusement des affaires aussi graves que celle de Crépol ou que celle de Lyon, il faut aller les récupérer. Et là, je pense que, pour le coup, il n'y a aucune... aucun a priori pour ne pas aller les chercher, soit parce qu'ils sont à droite ou soit parce qu'ils sont à gauche.
Alors, j'aimerais bien aussi avoir le point de vue de votre point de vue de professionnel. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vit une période plus violente en termes politiques, je ne parle pas de criminalité globale, en termes d'affrontements politiques que dans les années 70 ou 80?
Alors moi je suis entré dans la police début 80 et j'ai vécu avec, vous l'évoquiez tout à l'heure, avec Action Directe. Donc, Action Directe, c'était quand même le moment où on a vu des groupuscules qui étaient plutôt sur la région de Toulouse, qui commençaient à se radicaliser. Et puis, de ces groupuscules, émergeaient quelques personnes, un groupe d'individus, avec une espèce, non pas d'internationalisation, parce que c'était plutôt européen, mais avec des gens, avec la bande Abadère en Allemagne, avec les cellules communistes combattantes, je crois, qui étaient en Belgique, avec l'Italie aussi.
Brigade Rouge.
Brigade Rouge en Italie. Et on avait des actions qui étaient extrêmement violentes. Donc c'est pour ça qu'on a toujours été très vigilants sur la montée, la radicalisation de ces groupuscules, parce que n'oublions pas que Georges Besse a été assassiné par Action Directe, que l'ingénieur général Audran a été assassiné par Action Directe, que, et ça je le vis personnellement, il y a une bombe dans les locaux de la police judiciaire à Paris, la brigade de répression du banditisme, en 1986, avec un chef inspecteur du visionnaire qui est décédé. Action Directe, la brigade rouge ont tué Aldo Moro. Il y a eu Hans-Martin Schleyer aussi en Allemagne. Tout ça, c'est des noms dont vous avez entendu parler, peut-être vous vous en souvenez pas, mais c'est l'extrémisme qui, d'un seul coup, pour quelques-uns, s'est radicalisé. Et il a fallu toute la puissance des services de renseignement et des services de police, avec l'appui du RAID pour Action Directe, pour mettre fin à tout ça et permettre que derrière, il y ait une situation qui devienne plus paisible, qu'on puisse exprimer ses ressentis politiques, mais sans violence.
Christian Flèche, je rappelle que vous êtes l'ancien responsable de la protection des hautes personnalités, chef de la PJ de Bobigny, patron de la BRI, et vous êtes devenu en 2007 le patron du 36 Quai des Orfèvres jusqu'en 2013. Est-ce que on n'a pas, vous venez de parler des actes terribles de l'ultra-gauche il y a quelques années, est-ce qu'on n'a pas une espèce de voyoucratie beaucoup plus, comment dire, difficile à attraper? C'était des actes de terrorisme, des assassinats préparés, etc. Aujourd'hui, on a plus, là en l'occurrence, un mort à la suite de bagarres, donc c'est quand même assez différent, jeune, qui n'a pas été spécialement ciblé en tant que tel. Donc, est-ce qu'on change quand même beaucoup de nature dans ce type d'assaut de la gauche?
Il y a toujours eu des bagarres.
De l'ultra-gauche.
Moi, j'ai connu plus les bagarres, parce que dans un de mes postes, j'étais responsable sur le 6e arrondissement où il y a la faculté d'Assas. Et à Assas, il y avait aussi beaucoup de batailles entre la gauche. M. Gachet se retourne, mais il y avait des batailles.
C'est des souvenirs pour Gérard Gachet.
Et de temps en temps, il y avait ça allait un peu loin, mais ça n'était pas jusqu'au point où on tapait au sol des gens.
Voilà. On savait s'arrêter jusqu'où aller trop loin. En tout cas.
Mais de temps en temps, il y en avait quand même qui étaient en garde à vue et qui étaient condamnés pour des violences.
Aussi, quand même, de temps en temps.
Bien sûr.
Et surtout, je pense que, enfin, moi, si j'en crois notamment les souvenirs, mais de Bernard Le Gant, depuis le début des années 70, on ne portait pas plainte. En tout cas, on partait avec ses plaies et ses bosses.
Ça dépend, parce que de temps en temps, il y en avait quand même qui restaient sur le carreau. Et donc,
alors que vous les retrouviez.
La police et les pompiers intervenaient. Ouais.
Voilà. Mais à vous entendre que par rapport à sur la question de Marc Baudrier, vous parliez d'Action Directe, et la question c'était, est-ce qu'il y aurait une recrudescence? Ou plutôt l'inverse?
Non,
à vous entendre, j'ai plutôt l'impression que, en dépit des apparences et de cette mort tragique du jeune Quentin, on serait plutôt sur une décrue de la violence politique de gauche.
Si vous comparez par rapport à la période d'Action Directe, bien sûr, mais je pense qu'il faut, et c'est ce que je disais aussi, il faut vérifier et surveiller les montées en puissance. Et donc ces montées en puissance, c'est là où le risque existe aujourd'hui, comme il existait quand j'étais en fonction, tout ce qui tournait autour des squats à Paris. Il y avait une nébuleuse autour des squats et le préfet de police était très très vigilant à ce que dans ces squats, il n'y ait pas une radicalisation qui s'installe. Donc, je pense que si vous avez compris que je trouve que c'est moins dangereux qu'avant, non, je pense que la montée en puissance est là et qu'il faut être très vigilant et stopper la montée en puissance par des actions judiciaires de façon à mettre hors d'état de nuire tous ceux qui sont les plus virulents et ne pas inciter les autres à ce qu'ils se servent de ces exemples-là pour poursuivre.
Est-ce que le phénomène de l'islamisation a à voir peu ou prou avec cette montée de la violence et cette montée en tension?
Alors, c'est une bonne question. Je pense que ça, c'est les services de renseignement qui pourraient vous répondre. dans ce que je vois, il y a un sujet sur, effectivement, il y a besoin d'avoir, comment dire, des espèces de sujets fédérateurs. Donc, Gaza est un sujet fédérateur. Donc, est-ce que c'est lié à l'islamisation? Je ne suis pas sûr. Mais ça peut être, à un moment donné, un sujet. Dans la Jeune Garde, je ne sais pas si c'est un sujet fédérateur. Et je rappelle d'ailleurs que la Jeune Garde est dissoute. Donc le groupement, et d'ailleurs il faut lire l'arrêté qui a été publié l'année dernière au Journal officiel pour montrer. C'est la procédure de dissolution, c'est un sujet qui se passe en Conseil des ministres, un décret en Conseil des ministres, c'est-à-dire le plus haut niveau administratif. C'est une procédure qui est contradictoire, donc ça veut dire que la Jeune Garde a pu faire valoir ses observations. Ils ont été dissous parce qu'ils avaient une organisation structurée qui appelait à des actions violentes. J'ai connu des cas de dissolution aussi quand j'étais aussi en fonction, pour d'autres raisons. Et ils ont fait un recours qui n'est pas suspensif. Donc il faut toujours dire que le mouvement est dissous. Et derrière, ils peuvent se reconstituer, mais il y a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelait avant les reconstitutions de Ligue dissoute, qui était un décret-loi de 36 qui a été repris par le Code de sécurité intérieure. Donc, ils ne sont pas à l'abri, s'ils reprennent une structure et un but identique, d'être poursuivis pour reconstituer un groupement de fait, qui plus est, armé.
Alors, ils ont été dissous, mais leurs leaders se sont retrouvés à l'Assemblée nationale, vous le savez, l'un comme député, l'autre comme assistant du député. L'assistant Jacques-Élie Favreau, assistant du député LFI Raphaël Arnaud, a été mise en examen pour complicité par instigation, si j'ai bien compris. Est-ce que la police, que c'est dans le rôle de la police de prévenir, c'est quand même assez curieux, si vous voulez, vu de loin comme moi, qui n'y connaît rien dans les affaires de police, de retrouver des gens qui ont un passé judiciaire assez lourd dans les coulisses de l'Assemblée nationale. Est-ce que la police peut prévenir le député en question, l'Assemblée? Est-ce qu'il y a un minimum de prévention pour qu'on ne retrouve pas ce type de profil, qu'on sache quel profil fréquente les palais de la République?
Et qu'on en retrouve certains, pardonnez-moi, qui travaillent à l'Assemblée nationale, on l'a découvert dans cette affaire, sous pseudo.
En plus,
comment est-ce qu'ils ont pu être engagés sous un pseudonyme et salariés par l'Assemblée nationale pour les assistants parlementaires en question? C'est quand même étrange.
J'ai lu ça, c'est effectivement étrange. Maintenant, j'ai lu aussi la réponse de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, là-dessus, qui a dit qu'elle allait faire vérifier. Ils sont en situation, je pense, de demander des enquêtes sur les gens qui travaillent à l'Assemblée nationale. Puisqu'ils délivrent des badges, il y a besoin d'avoir une enquête de sécurité. Maintenant, je ne sais pas si ça a été fait, et je ne sais pas quelle est la position. Après,
demander une enquête à la PJ
Pas à la PJ, mais ils ont les moyens, quand vous délivrez, de vous assurer que vous ne délivrez pas à quelqu'un qui peut porter un risque. D'abord, il y a un risque de sécurité intérieure.
Bah oui.
J'ai lu aujourd'hui qu'un collaborateur d'un ministre s'était vu refuser une habilitation. Donc ça peut aussi se faire pour un collaborateur d'un député. Maintenant, voilà, il y a un député qui est fiché S, ça n'empêche pas. Il est élu démocratiquement.
Il n'y a pas des enquêtes de voisinage systématiques réalisées par le renseignement autour des députés, comme on le fait pour une personne qui serait nommée aussi dans l'administration, à des postes sensibles?
Alors, pas pour être député, puisque là, c'est pour le coup...
Une élection.
Si le code électoral permet d'être élu, même en étant condamné, il n'y a pas de question à se poser. Après, il y a des enquêtes qui sont faites s'il y a des habilitations particulières. Donc, le cas des collaborateurs du ministre, c'était sur une habilitation particulière. Enfin, je veux aussi remarquer qu'il y a un sénateur qui a été... aussi poursuivi pour des faits graves. Et il y a un député qui a été aussi poursuivi pour des faits graves. Ils n'ont pas été écartés de leur fonction.
Oui, mais enfin, ils étaient des sénateurs et députés, ce n'étaient pas des collaborateurs. Oui.
Non, bien sûr, mais il y a un député fiché, c'est ce que je voulais vous dire.
Mais c'est ça. Donc,
Le problème, c'est de l'avoir investi en sachant qu'il était fiché. Ouais. Ça, c'est la responsabilité du parti politique. Il investit.
Et des électeurs qui ont voté.
Et des électeurs.
Ouais. Et c'est assez aussi surprenant, parce qu'on a démarré l'émission là-dessus, qu'il ait été en 2023, il n'était pas encore député, entendu à l'Assemblée nationale comme expert de l'extrême droite. Je parle de Raphaël Arnaud. Et donc, il a franchi, là aussi, encore, le portillon de l'Assemblée, et pour aller s'exprimer avec, auprès de la vice-présidente de l'Assemblée, qui était Hélène Laporte, en l'occurrence, et pour expliquer ce qu'il pensait de l'extrême droite. Donc, quelqu'un qui est fiché S peut, comme ça, venir donner ses bénédictions et sa pensée profonde sur des sujets
en plein
Assemblée nationale.
Non, je pense que fiché S, c'est aussi un sujet, on veut mettre beaucoup de choses sur un fiché S, c'est à quelqu'un qui attire l'attention des services de renseignement. C'est pas un casier judiciaire non plus, un fiché S. Il y a des gens qui sont fichés S parce qu'ils ont des rapports plus ou moins lointains avec des mouvances extrémistes.
Donc ça ne suffisait pas en soi à refuser son entrée,
non ? Manifestement non.
Non, manifestement. Même s'il était triple fiché S, ce qui était quand même... Hein,
ouais, je ne sais pas si on peut être triple fiché S, on peut avoir des sous-dossiers, mais enfin... Ouais. Il y a une fiche. Ouais.
Voilà. Bon, en tout cas, il avait une fiche chargée, je l'avais su à l'époque. Il y en a beaucoup, vous qui connaissez peut-être les fiches. Il y en a beaucoup des fichiers S à l'Assemblée.
À l'Assemblée.
Oui, à l'Assemblée.
Aucune idée. Aucune idée. Là, vous savez, au nom de l'indépendance des pouvoirs, l'Assemblée, elle gère aussi les choses de son côté. Et par exemple, pour que la force armée, en l'occurrence la police, rentre à l'Assemblée, il faut une réquisition du président de l'Assemblée ou de la présidente. En ce moment.
Ah, bon, bah écoutez,
ça nous est arrivé. On est déjà allé à l'Assemblée pour faire des perquisitions chez des collaborateurs de l'Assemblée ou même chez un député une fois. Et il faut avoir une réquisition du président de l'Assemblée.
Et pour quel type d'affaires ? Sans révéler les noms, mais quel type de délit ou de...
Un collaborateur de l'Assemblée, c'était pour des détentions d'images pédoporno. D'accord. Et c'était il y a très longemps. Et le député...
Ça n'arrive plus aujourd'hui.
Une question financière.
D'accord.
Mais à chaque fois, dans les deux cas, alors c'est compliqué parce qu'il faut passer par le parquet qui demande à la présidence de l'Assemblée. Mais dans les deux cas, le président de l'Assemblée a donné l'autorisation qu'on vienne faire des perquisitions. Dans un cas, c'était... Il est mort, il ne pourra pas me contredire, mais c'était Jean-Louis Debré qui était juge d'instruction et qui comprenait parfaitement les enquêtes et qui, bien sûr, nous a donné la possibilité. En l'occurrence, c'était une détention, on avait été à son domicile, et on a voulu voir si à son ordinateur de l'Assemblée, il n'y avait pas autre chose.
Si l'Assemblée, vous demandez à la PJ de contrôler l'ensemble des assistants parlementaires, parce qu'il y a quand même un vrai problème, là, en l'occurrence, avec notre ami Favreau. Ce serait possible hein ?
Elle n'a pas besoin de demander à la police judiciaire, parce qu'il faudrait qu'il y ait un cadre judiciaire, et elle passerait sans doute par le procureur de la République à ce moment-là, mais elle peut demander aux services de renseignement de faire des enquêtes de criblage sur les gens. Après, il faut savoir les conséquences qu'on peut en tirer et tous les enjeux qu'il y a. Là, le badge d'accès a été manifestement enlevé pour les collaborateurs qui sont impliqués. Ça veut donc dire que se réserve un contrôle d'entrée par le biais du badge. Et le motif qui a été invoqué, qui est un bon motif, c'est le trouble à l'ordre public. C'est-à-dire que laisser rentrer quelqu'un à l'Assemblée pourrait entraîner un trouble à l'ordre public. Après, il y a le contrat de travail qui lie le collaborateur au député. Et donc ça échappe à l'Assemblée.
Christian Flèche, merci beaucoup de nous avoir éclairé avec votre longue expérience. Je rappelle que vous avez été responsable de la protection des hautes personnalités, chef de la PJ de Bobigny, patron de la BRI. Vous êtes devenu en 2007 le patron du 36 Quai des Orfèvres. Ça a duré jusqu'en 2013. Donc votre parole a du poids sur ce type de sujet. Merci beaucoup d'être venu parmi nous et j'espère que vous reviendrez.
Au revoir.
Et merci à Franck Herriot, donc
qui est le secrétaire général du prix du Quai des Orfèvres.
Absolument. Voilà.
On le dit de temps en temps à l'antenne.
C'est vrai, exactement. Le prix du Quai des Orfèvres à suivre de près.
Chez tous les bons libraires.
C'est quand le prix du Quai des Orfèvres ?
Alors, l'élection, le jury dont fait partie d'ailleurs...
À l'élection.
l'élection du manuscrit.
Oui, la désignation du vainqueur.
A lieu tous les ans vers le 8 septembre, le 3 septembre, ça dépend. Et la remise officielle, donc la proclamation officielle, a lieu à la mi-novembre en général.
Franck est chargé de faire un tri parmi tous les manuscrits. Il y en a combien, une soixantaine?
200 à peu près.
200 ans, là
200.
On en reçoit à peu près entre 180 et 200. Et on en sélectionne une première sélection d'une cinquantaine. Et après, il y a des lecteurs, on discute. Et on en sélectionne 5 qui seront présentés aux jurés, qui se font tous un plaisir de les lire pendant leurs vacances.
Voilà, donc on lit ça au mois de juin et on décide en septembre pour une parution en novembre.
Et de fait, depuis la création du prix du Canada,
on va suivre ça. On compte sur Franck.
Tous les anciens patrons de la PJ font partie du jury.
Donc vous êtes là ex qualité. Magnifique. Et à vie. Merveilleux. Voilà un privilège qu'on ne dénoncera pas trop fort. Allez, c'est l'heure justement de notre clin d'œil culture. La transition est parfaite.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Franck Herriot, notre ami Damien Chalamel et Gérard Gachet. Alors, c'est l'heure du clin d'œil culture et donc des livres, des films, des spectacles, que sais-je encore, que vous avez pu voir et que vous allez recommander en quelques secondes parce qu'il nous reste peu de temps avant la fin de l'émission. Damien Chalamel.
Moi, c'est un film irakien. À voir en version originale, donc en arabe.
C'est votre séquence Télérama.
Exactement. Avec d'ailleurs, il y a une magnifique musique de fond avec les mélopées arabes, qui s'appelle Le gâteau du président. Ça se passe en 1990 en Irak. C'est un film bouleversant d'un certain Hassan Hadi. Et j'ai vu qu'il a eu l'Oscar de meilleur film étranger en 2026.
Vrai,
c'est inspiré de l'enfance du réalisateur. Qui effectivement était un jeune écolier irakien, sur les bords de l'Euphrate, dans ses habitations lacustres, invraisemblables. Non, c'est vraiment un film bouleversant que je recommande vivement.
Et il est donné dans plus de 2 salles ou...
Il est donné un peu partout en France.
Mauvaise langue.
Damien Chalamel, Franck Herriot.
Moi, un livre, le book club de la CIA, c'est écrit par un journaliste anglais, c'est édité aux Équateurs. Alors, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire le book club. C'est la CIA qui avait mis ce programme sur pied, qui était destiné à introduire derrière le rideau de fer pendant des années des millions de livres, de revues, évidemment interdites dans le bloc communiste. Donc à lire vraiment, parce que c'est passionnant. Il y a des éditeurs, des Polonais notamment, qui ont pris des risques en recopiant, en rééditant tous ces documents, en les diffusant et en mettant en péril la pensée communiste. Jusqu'en 1989.
Magnifique. La consigne est donnée. Le
titre club, le Book Club de la CIA,
le
aux éditions
Les
Équateurs.
Le Book Club de la CIA, Les Équateurs. Gérard Gachet.
Moi, j'ai un peu honte parce que je n'ai pas de clin d'œil culturel cette semaine, pour une raison que vous savez. Je suis en campagne électorale pour les municipales, donc je n'ai pas le temps beaucoup de lire, je n'ai pas le temps d'aller au cinéma, mais j'ai quand même, puisque c'est quand même un grand symbole culturel dont je vais vous parler, j'ai quand même une satisfaction culturelle. Le grand symbole culturel pendant des décennies, ça a été Jack Lang. Et j'ai une grande satisfaction de voir que, enfin, ça aurait mis beaucoup de temps.
Il n'a pas de clin d'œil, mais satisfactions culturelles.
L'addition lui est présentée. À lui et aux siens, pour les affaires aussi bien personnelles que financières et autres. Mais depuis le temps que beaucoup de gens savaient et que rien ne sortait, on se disait, est-ce qu'il va passer à travers les gouttes? Finalement, non. Et ça, c'est quand même une satisfaction un peu culturelle, entre guillemets.
Il y a une justice selon Gérard Gachet.
Un jeune mot, c'était le vieux book de la... c'est pas grave.
Allez, restons courtois. J'en avais un petit clin d'œil, mais je le garde pour la semaine prochaine. Du coup, restons courtois du vendredi. C'est fini. Merci à tous dans ce studio. Merci à la technique, Stéphane. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis, accompagnés, commentés. Heureux d'avoir passé ces 2 toutes petites heures en votre compagnie. Et on se retrouve dans une semaine, même heure, même adresse, 17h30, 19h30, vendredi prochain.
Ça suffit maintenant.